Printemps 2004. Déguisé en valet à l'arrière d'un carrosse, le roi Jacques Ier et son fidèle Jean-Pierre fuient Paris. Direction l'Alsace où ils pensent être à l'abri, et pour les crocs du roi c'est quand même plus simple de s'approvisionner à la source. Ils ont rendez-vous avec un élu strasbourgeois dans une auberge de Varennes. Il connaît une autre route que la 4, plus discrète pour les fuyards. Le roi et son fidèle Jean-Pierre sont arrivés à l'auberge de Varennes. Les voilà réduits à coucher dans l'étable pour avoir quand même un peu l'air de valet. Et cet élu alsacien qui n'arrive toujours pas, peut-être a-t-il été appréhendé par quelques socialistes lorrains en tentant de forcer le blocus. Et l'aube naît et avec elle son cortège d'embauche. À l'étable, un premier esclave se rend à son dur labeur. Il découvre le roi et son fidèle endormis dans la paille. Il les reconnaît immédiatement et s'en va quérir les forces du progrès qui les appréhende sans peine et sans Le Pen. Et ce salaud d'alsacien qui n'est pas venu. Dès lors, on parlera souvent du fameux lapin de Varennes.
Jouez au bois, résonnez musette, nous sommes sauvés, il est né le nouveau Raffarin, nous sommes sauvés, il est là pour nous sortir de la mouise. D'ailleurs, si vous avez des doutes, il suffit d'écouter Monsieur le Baron, il est le premier à se réjouir, il nous a dit que nous avions un Zidane au ministère de l'économie et des finances. Donc, je confirme, nous sommes sauvés.
Oui, salut Daniel, je voudrais te livrer ce petit raisonnement. Chirac, dans son aveuglement, veut baisser encore les impôts alors que la moitié des Français n'en paye pas. Prenons un exemple. Moi, je gagne 50 000 francs net par mois, j'ai 50 ans. J'ai tout ce que l'on peut avoir à 50 ans. Mes seuls investissements sont voyager et faire des placements immobiliers dans les îles afin de payer moins d'impôts. Donc, je ne fais pas marcher l'économie alors que Chirac baisse mes impôts, donc je m'enrichis une fois. C'est une histoire belge. Autre chose. La France a une dette de 1 000 milliards d'euros. À qui le contribuable français paye les intérêts de cette dette? Point d'interrogation, les banques. Donc Chirac travaille pour les banques, et les banques, c'est en partie les dividendes qu'elles me versent par le biais de mes placements boursiers. Donc, grâce à Chirac et aux banques, je m'enrichis deux fois sur le dos des Français. Cela s'appelle travailler pour sa caste. Merci Chirac. C'était Philippe de Paris. À bientôt.
Bonjour Daniel, je viens d'écouter ton émission et je trouve que Nadine est absolument magnifique. C'est inimaginable ce qui lui est arrivé, mais elle en parle tellement bien et elle vit effectivement ça d'une façon... c'est très difficile et je la trouve absolument magnifique. Au revoir.
Bonjour Daniel, c'est Muriel à Bastia. Eh bien c'est fichu, encore une fois, pour mon maquillage. Aujourd'hui, je n'irai pas au vernissage. Des 11e rencontres de la BD. Hier, c'était Valentine. Ce soir, c'est Nadine qui m'arrache le cœur et les larmes. Mais où était-je il y a 10 ans? Où étions-nous? Je devais fermer les yeux pour ne pas voir les images télévisées, s'il y en eut. Mais tu vois, ces témoignages horribles que j'entends aujourd'hui me troublent bien plus. J'embrasse humblement ces petites sœurs rescapées de ce génocide. Et je vous remercie, Daniel. C'est important ce que vous nous rappelez. C'est Muriel, à Bastia.
Pourquoi l'opération Turquoise, opération prétendument humanitaire lancée par la France le 22 juin 1994, se souciait-elle si peu de sauver les rescapés tutsis du génocide? Pourquoi, dans la zone humanitaire sûre, sous son contrôle, l'armée française a-t-elle pris pour interlocuteur les préfets et bourgmestres qui avaient coordonné les massacres sans du tout les inquiéter? Comment se fait-il que les massacres aient pu continuer dans cette zone, que le démantèlement du Hutu Power n'ait pas eu lieu, que sa réorganisation ait été favorisée? Pourquoi la RTLM, la radio de la mort et de la haine, située dans cette zone, a-t-elle pu continuer à émettre? C'est un message de Marie-Violaine pour Alain, ma Valentine, rescapée du génocide des Tutsis au Rwanda et qui depuis 10 ans ne sait plus ce que vivre veut dire.
Voilà les pourquoi. Et pourquoi de cette auditrice, 10 ans après, c'est pourquoi n'ont pas tous de réponse, ou des embryons de réponse, ou des réponses qui ne sont pas très satisfaisantes. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de pourquoi, 10 ans après. Beaucoup d'émotions, évidemment, dans le répondeur de la base, j'y suis, suite au témoignage, au reportage qu'on vous a fait entendre sur, avec les rescapés du Rwanda, du génocide du Rwanda, y a 10 ans, Valentine, et puis vendredi c'était Nadine, cette jeune femme. Aujourd'hui, on va essayer de passer, de s'extirper un petit peu de l'émotion, parce que ça servirait à rien, seulement l'émotion. Je l'ai dit en commençant, ce qui nous avait saisi à l'époque, il y a 10 ans, c'était pas à cause de l'horreur, mais c'était à cause des causes de l'horreur. Et ces causes de l'horreur ne sont pas toutes, il s'en faut beaucoup, données, éclairées, recherchées. Il semblerait même, concernant notre beau pays, que on procède comme on l'a fait pour la torture en Algérie, pour le 17 octobre 61, pour Vichy aussi, c'est-à-dire tenter de passer sous silence, c'est-à-dire installer une gangrène durable dans notre corps social, dans notre pays, en attendant encore des années. Que le scandale sorte. D'autres pays sont allés plus vite, il y a eu des réactions différentes dans la communauté, ce qu'on appelle la communauté internationale, mais la France n'a pas envie de donner toutes les réponses à ces pourquoi. C'est pourquoi, aujourd'hui, avec deux auteurs, deux intervenants, François-Xavier Verschave et un confrère du Figaro, Patrick Saint-Exupéry, on va regarder ce qu'a pu être effectivement, il y a 10 ans, l'implication de la France au Rwanda.
C'est beaucoup de gens. C'est mon père, ma mère, mon oncle, mes tantes, les enfants de mes oncles. Je ne peux pas les compter. J'avais 2 oncles, chacun avait 7 enfants. Tous sont morts. Chaque Interahamwe qui entrait dans des chambres, il ne tuait pas immédiatement. Il disait d'abord, les Hutus, montrez vos cartes. Après avoir fait sortir les Hutus, quand ils montraient leurs cartes, et ils commençaient leur travail.
Je m'étais appuyée sur un sac où j'avais mis ma tête parce que j'avais l'impression que mon cou était complètement coupé. Et alors quand ils m'ont vu, comme j'avais plein de sang sur le sac et sur moi, ils ont pensé que j'étais déjà morte.
Ce matin, ils étaient très très nombreux. Ils avaient des sifflets. Ils avaient des gourdins. Ils criaient, dansaient. Ils disaient qu'ils venaient exterminer les Tutsis.
À quoi vous pensiez en rentrant avec vos machettes pleines de sang? Vos gourdins pleins de sang, vos vêtements pleins de sang, certains d'entre vous les mains pleines de sang.
Quand on rentrait, sur notre chemin de retour, on a commencé à se poser des questions entre nous. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a fait ça? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, ces Tutsis? On a commencé à se poser des questions. Les autorités ont donné l'ordre. Eh bien, on devrait le faire. Ce n'est pas de notre faute.
Un génocide, chez ces gens-là, ça n'a pas d'importance. quand Mitterrand dit un génocide, chez ces gens-là, ça n'a pas d'importance. Vous voyez pourquoi je renvoie aux cinq dimensions psychologiques. Ces gens-là, on ne peut pas parler de génocide chez ces gens-là. On peut parler de choléra, on peut parler d'etc. On ne peut pas parler de génocide pour des populations dépourvues d'humanité.
Sous silence, Rwanda sous silence, c'était le titre que nous avions donné à notre série de reportages il y a 10 ans, en début juin 1994. Et là, avec Guy Ventil, quand nous étions au Rwanda, ces semaines dernières, on se disait, oh là là, pour le 10e anniversaire, ça va être une avalanche de reportages, de débats, d'analyses, de controverses, d'enquêtes, etc. Force est de constater que, non, bien sûr, ce 10e anniversaire ne passe pas sous silence, mais on a un petit peu surestimé, surévalué l'importance que cet anniversaire allait avoir. On va voir dans demain et après-demain, mais je crains que ça reste un événement limité. Et pourtant, ce fut une faillite de l'humanité. Il y a 10 ans, au Rwanda, oui, une faillite de l'humanité. Et l'humanité, c'est nous aussi, c'est pas seulement ces nègres, c'est pas seulement ces gens-là, comme vient de le souligner José Kagabo, cette phrase, à travers cette phrase attribuée au président François Mitterrand, chez ces gens-là. C'est une faillite de l'humanité. Et cette faillite de l'humanité, nous y avons participé. En tant, et nous en avons été témoins en tant que humanité et aussi en tant que Français. Notre pays a été impliqué dans l'histoire du Rwanda et dans l'histoire de ce génocide. C'est une polémique qui hante nos relations avec l'Afrique, notre pays, nos relations avec l'Afrique et cette région des Grands Lacs, et tout spécialement ce pays, ce Rwanda aujourd'hui. C'est hélas un sujet qui n'intéresse pour l'instant que des cercles limités d'opinion. Faut-il croire qu'il y a une volonté à ce que le sujet reste dans des cercles limités d'opinion? J'ai pas de réponse. En tout cas, on va essayer aujourd'hui, avec deux observateurs engagés, on va dire, de remettre cette question à jour, la question de l'implication de la France au Rwanda, avec François-Xavier Verschave de l'association Survie, qui est très impliqué dans une critique extrêmement documentée et architecturée, on va dire, sur ce que cette association appelle la France-Afrique, c'est-à-dire l'implication de la France dans l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest, et puis avec un confrère, Patrick de Saint-Exupéry, qui est reporter au Figaro, et qui aujourd'hui est correspondant pour ce journal à Moscou, et qui vient de publier un livre qui fait grand bruit, mais qui devrait faire, à mon avis, beaucoup plus de bruit qu'il n'en fait, et qui s'intitule « L'inavouable, la France au Rwanda. Français, si vous saviez ». Rwanda.
L'opération d'évacuation des ressortissants étrangers n'est pas terminée. Hier soir, un nouveau groupe de Français est arrivé à Roissy. Ce qui a frappé cet ingénieur des télécoms au micro de Mathieu Delahousse, c'est la sauvagerie des tueurs et l'impuissance des casques bleus.
Le retour s'est bien passé, hein. On avait suffisamment de militaires français pour nous escorter. Ça n'a pas été la partie la plus dure, hein, de la semaine qu'on vient de passer. Le plus dur, ça a été de voir tous ces massacres. Ces femmes, ces enfants, décapités à la machette, à la grenade. Cette boucherie qui a été faite, c'est un véritable génocide. C'est scandaleux. Avec 2400 soldats de l'ONU, ils n'ont pas été capables de protéger ni la ville de Kigali, ni la population locale, ni le ressortissant étranger. C'est absolument scandaleux.
Quels ont été vos contacts avec la population quand vous êtes parti?
Ce qui était scandaleux, c'est que quand on est parti, tous les gens qui nous applaudissaient et qui disaient « Vive la France », c'était ceux qui avaient des couteaux à la main, encore plein de sang, des gens qui venaient d'égorger. J'avais honte d'être français.
Tout est dit dans ce petit, très court, pas petit, mais court reportage sur France Inter. C'était le 13 avril 1994, c'est ce témoin cueilli à sa descente d'avion à Paris avait tout dit. C'est un véritable génocide, dit-il, et j'avais honte d'être français. 2400 soldats des Nations Unies qui n'interviennent pas, on avait la situation, on savait ce qui se passait, on savait ce qui s'est passé au Rwanda dès le déclenchement de ces massacres, de ce génocide. On a compris très vite, ce monsieur ingénieur des télécoms avait pigé, et on savait très vite ce qui était en train de se produire. Pour autant, 10 ans plus tard, faut-il avoir honte d'être français? Nous attend, est-ce qu'on nous embrouille? Est-ce qu'on nous trompe? Est-ce qu'on euphémise? Est-ce que certains font dans l'anti-France un acharnement contre la France, contre le pouvoir d'alors, qui était celui du président François Mitterrand? Mais il y avait une cohabitation, souvenez-vous. Le Premier ministre, c'était Édouard Balladur. Est-ce que, en parlant de la France, nous ne faisons pas une erreur, puisque c'est d'abord une affaire rwandaise, bien évidemment. Ce génocide est une affaire, c'est des Rwandais qui ont tué des Rwandais, et c'est d'abord à eux d'assumer leurs responsabilités. Est-ce que nous n'allons pas là-bas chercher des motifs à nos polémiques et à nos controverses hexagonales? Je ne le crois pas, si on voit avec quelle persévérance, on va dire, ce sujet revient et hante, comme je le disais, notre inconscient collectif. Il y a eu d'autres affaires dont on s'est préoccupé, qui nous ont préoccupés, je dirais, ces dernières années. Je faisais allusion, évidemment, à Vichy, je faisais allusion au procès Papon, le 17 octobre 61, la torture en Algérie, etc. Tous ces sujets qu'on a essayé de planquer, de passer sous le tapis et qui reviennent et qui nous hantent. Alors, j'ai présenté François-Xavier Verschave, d'abord, qui est, je le disais, très impliqué dans l'observation avec son association Survie, qui a notamment dirigé une commission d'enquête citoyenne qui s'est tenue la semaine dernière à Paris, avec beaucoup de participants qui sont penchés sur l'implication de la France au Rwanda il y a 10 ans. François-Xavier Verschave est notamment l'auteur d'un livre qui a fait grand bruit à l'époque, Noir Silence, aux éditions des Arènes, et il vient de sortir aux éditions de la Fabrique Au mépris des peuples. François-Xavier Verschave.
Vous écoutez la radio-télévision libre des mines communes dans notre blindé. Nous sommes obligés désormais d'émettre.
Alors, implication de la France dans le génocide du Rwanda. A priori, on se dit, oui, mais c'est quand même des Rwandais qui ont massacré des Rwandais, c'est une affaire rwandaise, c'est d'ailleurs une affaire africaine aussi bien, et il faut sans doute d'abord regarder cette prééminence de la responsabilité des Rwandais. Mais ensuite, on parle de la communauté internationale, l'insaisissable communauté internationale qui dissout elle-même sa responsabilité dans notre responsabilité collective, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de responsable, plus de coupable, et on pourrait de cette façon nier ce qui s'est passé.
Plus le crime est grand, plus il faut de participants ou de complices. Et donc, le fait de parler d'une culpabilité ou d'une complicité n'en exclut pas d'autres. Dans le génocide au Rwanda, il y a eu des complicités internationales passives nombreuses. Celle des États-Unis, qui ont refusé le mot génocide pendant 2 mois pour ne pas avoir à intervenir, celles de pays comme la Grande-Bretagne qui ont fait l'obstruction, celles de pays comme la Belgique qui ont poussé à retirer les troupes qui auraient pu lutter contre le génocide. Il y a eu aussi le rôle du Vatican qui n'a pas eu la parole forte qu'il aurait pu avoir compte tenu du rôle éminent de l'Église dans ce pays. Ce sont des complicités au moins passives. La différence, c'est que la France a eu une complicité active. Et c'est ce que nous avons examiné.
Ces responsabilités passives, c'est pas rien.
C'est pas rien. C'est très important, parce qu'il aurait suffi que l'un de ces complices passifs ne le fasse pas pour empêcher le génocide. C'est ça qui est extraordinaire dans un génocide. Il faut quelque part que tous les complices soient d'accord. Si les États-Unis avaient dit non, le génocide aurait pu être arrêté. Si la Belgique avait dit non, nos soldats restent et nous combattons, le génocide aurait pu être arrêté. Donc chacune porte une part. Mais en termes de droit et en termes aussi de responsabilité politique et morale, il y a une différence entre la complicité passive, laisser faire, et la complicité active, aider ceux qui commettent le génocide.
Jean-Hélène, vous êtes en ligne avec nous de Kigali. Vous venez d'arriver dans la capitale du Rwanda cet après-midi. Est-ce que ces massacres continuent aujourd'hui, Jean ?
Oui, les massacres continuent. En effet, je suis allé à l'hôpital. Les blessés continuent.
9 avril 1994.
Cet après-midi, une famille entière a été massacrée dans l'enceinte d'une mission religieuse où ils avaient trouvé refuge. Et dans l'hôpital, bon, c'est une morgue qui déborde de cadavres, qui s'empilent, et puis des salles d'urgence où on marche dans le sang, des blessés couverts de plaies, donc qui gémissent. On voit des enfants, des vieillards, des femmes, je veux dire, sans aucune distinction.
Alors ces massacres se poursuivent. Avez-vous pu déterminer qui les commet ?
Alors ici, on pense, enfin, d'après les témoignages qu'on reçoit, moi je n'ai pas fait personnellement de tour en ville dans ces quartiers populaires où se passe l'essentiel des massacres, mais ce sont des miliciens, essentiellement donc des partis extrémistes CDR, donc et même des jeunesses du MRND, donc de l'ancien parti unique du parti au pouvoir du président Habyarimana.
Et sait-on à qui ils obéissent, les gens qui commettent ces massacres ?
Difficile de savoir. On sait que la garde présidentielle tient la ville, mais on ne sait pas qui est à sa tête. Des militaires donc participent à ces massacres aussi, d'après les témoignages qu'on a reçus. On ne sait pas à qui ils obéissent.
Une dernière question. Est-ce qu'il vous semble que ces massacres sont directement à caractère ethnique ?
Pas seulement. C'est sûr que la communauté Tutsi semble être particulièrement visée, mais aussi les Hutus qui étaient dans l'opposition, c'est-à-dire favorables à une collaboration avec le FPR d'un point de vue politique. Et puis, bien sûr, il y a des règlements de compte. Et alors, même les Belges semblent visés aussi. Il y a des barrages où les miliciens, à moitié sous, souvent, demandent l'identité des Blancs. Est-ce que vous êtes Belge ? D'un ton très agressif. Voilà comment ça se passe. Et dans l'hôtel ici où nous sommes réfugiés, aux Mille Collines, les gens ont peur, même les Blancs ont peur, oui.
Jean-Hélène, je vous remercie. Je rappelle donc que vous étiez en direct avec nous de Kigali.
Voilà, c'était le 9 avril 1994 sur RFI. Jean-Hélène donnait déjà un aperçu de la situation. C'était ça, c'était bel et bien ça. C'était ce CDR, ce parti extrémiste pro-Hutu, les jeunesses du MRND, du parti l'ex-parti unique du président. Ces jeunesses-là, c'était les fameuses Inera Amwe, ces milices qui vont être une des pièces essentielles du génocide. Et puis à la question, est-ce que ce sont des massacres à caractère ethnique, Jean-Yves a compris que c'est pas seulement ça, mais que il y a des massacres aussi de ceux qu'on appelle les Hutus modérés, c'est-à-dire des gens qui sont opposés à la politique conduite par le pouvoir à cette époque-là. Donc on a les données, mais malgré ça, on va continuer de dire massacre interethnique, Hutu contre Tutsi, Tutsi contre Hutu. On va essayer de faire dans le 50-50, dans la balance, et puis insister sur les luttes intertribales, sur tout ce qui peut les éloigner, éloigner ce conflit de nous, de notre façon de voir les choses, c'est-à-dire, au fond, c'est des sauvages, c'est une histoire entre eux, on n'y peut rien, ils ont l'habitude de se découper à coups de machette, nous, on ne peut que le déplorer, mais nous, ça ne, ceci ne nous regarde pas. Chez ces gens-là, un génocide, c'est pas quelque chose de trop important. On retrouve François-Xavier Luperchat. Alors voyons cette responsabilité active de la France avant le génocide d'abord. Premier chapitre, avant.
Pour des raisons qu'on ne comprend pas encore et qui relèvent d'une sorte de secret d'État, la France décide en 1990 d'entrer en guerre pendant 4 ans contre les exilés tutsis, plusieurs centaines de milliers d'exilés qui voulaient rentrer dans le pays et qui s'appelaient le FPR.
La France a déjà des accords militaires depuis 1973 avec le Rwanda.
Tout à fait. Mais pourquoi ? Pourquoi le Rwanda n'est pas une ancienne colonie française ? Pourquoi la France décide de combattre aux côtés d'un gouvernement raciste, dont la législation est raciste, qui a des systèmes de quotas depuis l'indépendance ? Pourquoi la France décide-t-elle que ces gens-là sont ses alliés ? Ce gouvernement, ce pouvoir, a déjà commis un certain nombre de massacres. On parlait même en 1964, dans le monde, d'un génocide. Mmh. Donc, il y a une histoire déjà chargée. Et la France, avec ses forces spéciales, c'est très important, mène à partir de 1990 une guerre secrète en armant à outrance cette armée, en formant les commandants de la garde présidentielle qui seront les principaux tueurs et qui eux-mêmes formeront les chefs miliciens dans des camps spécifiques où déjà affluent les cadavres à plusieurs reprises. La France est aux barrières. On a eu un témoignage pendant notre commission d'une femme qui a vu des militaires français contrôler les cartes d'identité ethnique et remettre des Tutsis à des miliciens à côté qui les découpaient aussitôt. Donc la France est déjà impliquée dans une atmosphère qui va assez vite tourner à une sorte de pré-génocide. Même en 92 et 93, la mission d'information parlementaire l'a reconnu, la France pratiquement commande l'armée rwandaise qui est déjà en déconfiture. Et donc, elle mène la guerre contre le FPR. Il y a une guerre qui est menée et qui ne s'arrêtera pas, pendant le génocide ni après le génocide.
Alors, il y a un soutien en hommes, il y a un soutien en armes, il y a un soutien en fonds.
Absolument. Et c'est ce que nous avons démontré pendant la commission d'enquête citoyenne, c'est que avant le génocide, on pouvait toujours dire, on ne savait pas. On ne savait pas que ces gens que nous soutenions allaient commettre l'innommable 1 million de morts en 3 mois. Mais, en fait, ce que nous avons montré, c'est que pendant toute la durée du génocide, et même au-delà, on a fourni des armes par différents canaux, on a fourni de l'argent, on a fourni un soutien diplomatique à l'ONU, et on a cessé aussi de fournir un soutien idéologique en essayant d'expliquer que finalement tout ça n'était pas si simple, en essayant de faire passer dans la presse des messages comme quoi ce n'était pas un génocide mais une guerre cruelle, etc. La question fondamentale, c'est le degré de proximité et de connivence entre les conseillers français qui étaient omniprésents, y compris jusqu'à la date de l'attentat.
Conseillers militaires français.
Conseillers militaires français auprès de l'armée rwandaise. Quel est leur degré de connivence avec le colonel Bagosora, qui est considéré par tout le monde comme le cerveau rwandais du génocide, qui a été formé d'ailleurs à l'école de guerre française, c'est très important de le rappeler, le colonel Bagosora. Les services de renseignement belges, un mois avant, connaissaient le plan du génocide, et le ministre des Affaires étrangères belge en avait parlé dans plusieurs réunions ou télégrammes, etc.
Il emploie le mot génocide ?
Il emploie le mot génocide un mois avant le génocide. Les services français qui se sont vantés devant la mission parlementaire française d'être les meilleurs sur le Rwanda, et personne n'en doute une seconde tellement ils étaient investis sur place. Vous pensez bien que si les Belges le savaient, les Français le savaient, d'autant qu'ils avaient une proximité quotidienne avec ceux qui allaient être les organisateurs du génocide. Donc, les Français n'ont pas été pris au dépourvu. Et à partir du moment où le 8 avril, le 9 avril, en mai, en juin, ils continuent de fournir des armes, ils montent même une opération insecticide Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Les Tutsis étaient appelés des cancrelats. Parce que quelque part, il faut animaliser, déshumaniser ceux qu'on va exterminer. Eh bien, le capitaine Baril, qui n'est pas du tout un privé, mais un instrument de longue date du gouvernement français, conclut un contrat insecticide en plein génocide. C'était un contrat de formation commando de l'armée qui commettait le génocide pour mieux combattre l'ennemi FPR.
François-Xavier Derchave, qu'est-ce que la France a comme intérêt dans cette guerre, dans ce conflit, dans cette partie du monde à ce moment-là ?
Cela relève, je le pense, vraiment du secret d'État, il faudra le lever. Il y a plusieurs explications, mais je n'y crois pas à toutes ces explications. Il y a l'explication officielle énoncée par François Mitterrand en Conseil des ministres, qui est « nous menons la guerre contre les anglo-saxons en Afrique ».
Ça c'est fachada,
c'est syndrome, fachada. Syndrome et il fachada. L'explique, il dit voilà, les Américains nous agressent par l'Ouganda, qui est un pays au nord du Rwanda, où se sont exilés les Rwandais chassés par les massacres des années 60, d'où part le FPR, et ces Rwandais se sont mis à parler anglais. Donc, c'est les anglo-saxons qui attaquent la France. Enfin, comme si le Rwanda, c'était la France. Tout ça, c'est un peu bizarre.
La francophonie.
La francophonie.
La culture.
Moi, je n'y crois pas vraiment. Parce que j'étudie ce que j'appelle la France-Afrique depuis 10 ans, les relations franco-africaines, et je m'aperçois que les principaux leaders de ces relations de prédation, d'oppression, parfois de guerre civile ou de guerre sanglante de ce type, sont tous en fait très liés à l'Alliance Atlantique et aux États-Unis. Donc franchement, je ne suis pas très convaincu par ce discours anti-anglo-saxon, d'autant que les armes qui ont été livrées à ceux qui commettaient le génocide pendant le génocide ont été livrées, alors que c'était la France qui était au premier rang et qui actionnait tout cela, elles ont été livrées en partant de la Belgique, voire de la Grande-Bretagne. Alors, on ne fera pas croire que tout cela s'est fait uniquement contre les anglo-saxons.
Donc, alors, si c'est pas ça, c'est quoi ?
Alors, l'autre explication qui est avancée par Patrick de Saint-Exupéry dans son livre, il dit, les militaires français qui, depuis la guerre d'Algérie, sont reconnus comme les meilleurs au monde dans la doctrine militaire de contrôle des populations, par la guerre psychologique, par la peur, et qui ensuite ont exporté ces méthodes, on le sait maintenant, un peu partout dans le monde, y compris en Amérique latine, où nous avons été les conseillers de la mise en place d'un certain nombre de dictatures militaires.
Notamment l'Argentine.
Voilà, nous avons même conseillé aussi la CIA à propos de l'opération Phoenix, qui a fait 100 000 morts pendant la guerre du Vietnam. Donc on est de vrais spécialistes en termes de doctrine militaire, de contrôle des populations. Et selon des confidences qui ont été faites à partir de Saint-Exupéry, il s'en explique, et c'est là qu'on parle de l'inavouable, ces militaires français estiment à la fin des années 80 qu'ils ont franchi un palier dans leur capacité de contrôle, de guerre psychologique, de manipulation des populations, et se seraient servis du Rwanda comme d'un laboratoire, d'un terrain d'expérimentation, avec par exemple la création de la radio
d'Émile
Colline, qui est une radio inspirée en partie d'un format français, et qui est une radio qui va avoir un succès extraordinaire, qui va être la principale arme du génocide.
Vous écoutez la radio-télévision libre des mines communes. Dans 12 minutes, il sera 10 heures dans le blindé de la RTLM. Nous sommes là pour vous, chers amis auditeurs, à votre service. Pendant la guerre, nous ne vous abandonnons pas. Nous continuons de combattre à côté de vous.
Il aurait suffi que les États-Unis refusent. Il aurait suffi que la Belgique. Il aurait suffi de si peu de choses pour enrayer la mécanique de ce génocide. Et par exemple, ce que nous écoutons là, cette sinistrissime radio des Mille Collines, qu'il faut encore le rappeler, a été l'instrument, le moyen du génocide, aussi bien dans la préparation idéologique que dans logistique, eh bien, il y a eu très peu de tentatives pour essayer de faire taire cette radio monstrueuse. Je crois qu'il y a eu un tir d'artillerie du FPR sur le lieu d'où cette radio émettait. De là, la phrase qu'on vient d'entendre dans la bouche de cet animateur, nous sommes dans un blindé. Voilà. Mais je crois que c'est à peu près la seule tentative qui a été faite pour les faire taire. Ils se sont repliés. Cette radio était dans un engin mobile, dans un véhicule mobile, et s'est replié en même temps que les populations se repliaient vers le Zaïre, vers le Congo, devant la marche de l'armée du Front Patriotique rwandais du FPR. Donc ils ont pu émettre jusqu'au bout, et ils ont été c'est vraiment le symbole de la lâcheté de la communauté internationale, et aussi évidemment de ce dont nous parlons aujourd'hui à nouveau et qui nous hante, c'est notre responsabilité dans cette affaire. Alors le 23 juin 1994, souvenez-vous, c'est l'opération Turquoise. La France, après avoir tergiversé, 23 juin 1994, ça a commencé le 6 avril, et on sait le nombre de victimes chaque jour, 5 000, 10 000, il y a des journées, c'est 15 000 personnes qui sont massacrées à coups de machettes. C'est donc quelque chose. Alors bon, la France, en tous les cas, le 23 juin 1994, lance cette opération turquoise, la très ambiguë opération turquoise. Au terme de ce génocide, au bout de 1 million de morts, selon le chiffre généralement avancé, une fois que 75% de la population tutsi est détruite, les massacres continuent, mais la France intervient.
On ne peut plus attendre, on le voit bien. Il reste des hôpitaux, des églises, quelques lieux, quelques sites où tout n'a pas été massacré. Il y a donc une extrême urgence. Une force de protection humanitaire se met en train, destinée à assurer la sécurité des populations civiles qui ont échappé à l'extermination. C'est désormais une affaire d'heures et de jours. Nous en sommes là. Je dois dire que 2 ou 3 pays africains ont répondu favorablement. J'attends encore les réponses fermes de pays européens. Quoi qu'il en soit, nous le ferons.
Alors là, pourquoi, selon vous, la France intervient-elle? Qu'est-ce qui motive l'opération turquoise de juillet 94?
Il y a une rencontre tout à fait symptomatique, début juin, je ne sais plus la date exacte, entre Mitterrand et Médecins sans frontières. Médecins sans frontières a été parmi les tout premiers à alerter sur le génocide. Ils sont même intervenus mi-mai en prime time au journal télévisé de TF1 avec Poivre d'Arvor, où on a parlé de génocide. Pourquoi ? Parce que 1000 employés tutsi de MSF ont été massacrés dès les premières semaines du génocide. Donc eux savaient parfaitement ce qui était en cause. Et donc ils ont fait une lettre ouverte à Mitterrand, où ils accusaient carrément la France, ils disaient déjà pratiquement tout ce qu'on dit aujourd'hui d'ailleurs. Et Mitterrand les reçoit. Et Mitterrand leur dit, nous allons reprendre la main et aller mener une opération, en gros, humanitaire. Sauf que nous avons décortiqué, pendant la commission d'enquête citoyenne, quels étaient les objectifs réels de Turquoise. Mmh. Et ce qu'on voit bien, c'est que, y compris dans la manœuvre militaire stratégique, y compris dans l'équipement militaire ultra sophistiqué, l'objectif, c'était de créer ce qu'on appelle un Hutuland, c'est-à-dire d'avoir la moitié du Rwanda ouest, qui aurait été une sorte de Corée du Nord, où tous ceux qui ont commis le génocide, que ce soit les militaires ou les politiques, auraient pu se rassembler et préparer la contre-offensive. Et c'est seulement parce que, immédiatement, il y a eu la prise de Kigali et que le front a cédé, que ce plan n'a pas pu être mis en œuvre. Mais plus grave encore, les témoignages que nous avons recueillis pendant la commission d'enquête citoyenne, et qui demandent à être confirmés, mais nous en avons eu une quinzaine, que ce soit des témoignages de miliciens repentis ou des témoignages de survivants, montrent qu'en plusieurs cas, les militaires français, au lieu d'aller sauver les Tutsis rescapés, c'était l'objectif affiché de Turquoise, se sont associés aux miliciens pour, moyennant différentes ruses, débusquer des survivants, expédier des rescapés hors d'un camp, de manière à les faire massacrer. Ce sont des accusations tout à fait gravissimes, qui demandent à être vérifiées. Mais ces témoignages sont à la disposition de qui ils souhaitent, ou les rescapés de ce fameux camp de Nyarushishi, qui expliquaient comment on les poussait à aller chercher du bois hors du camp, et ensuite on fermait les barrières pour qu'ils ne puissent plus rentrer, moyennant quoi ils se faisaient massacrer. Tout cela, ce sont des accusations gravissimes, mais si vous voulez, plus généralement, en dehors de ces témoignages, nous avons d'innombrables documents qui établissent l'antitutsisme militant, je dirais même fanatique, d'une partie des troupes spéciales qui ont été engagées dans l'opération turquoise. Alors, antitutsisme, ça ne vous dit rien, mais antisémitisme pendant la guerre 40, ça vous dit peut-être quelque chose.
La France a toujours été très neutre dans cette histoire qui oppose les Hutus et les Tutsis depuis des années. C'est grâce à nous que ces deux ethnies ont pu se retrouver autour d'une table de négociation à Arusha en Tanzanie en août dernier. Nous avons toujours œuvré pour que le calme revienne au Rwanda. Là, les choses éclatent. C'est un problème que les Rwandais devront traiter ensemble, que les massacres s'arrêtent, que la paix revienne, qu'un cessez-le-feu soit signé. La France sera toujours présente pour répondre si on la sollicite.
Voilà, c'est le ministre de la Coopération de l'époque, du 9 avril 1994, une déclaration du 9 avril 1994, c'est Michel Roussin. Une autre réaction à l'époque, un autre commentaire, le 1er mai 1994, on vient de parler de Médecins sans frontières, analyse de Ronnie Broman.
Quelques 200 000 morts en 3 semaines dans l'ex-colonie belge et une marée humaine de centaines de milliers de réfugiés. Je n'ose pas avancer un chiffre, mais ceux qui nous parviennent vont de 250 000 à 600 000 personnes. Des centaines de milliers de réfugiés qui fuient vers la Tanzanie avec des Occidentaux qui ne semblent pas très concernés, c'est le moins que l'on puisse dire. La France en particulier restant étrangement silencieuse. Étrangement, car jusqu'à présent, le Rwanda ne lui était pas étranger. Elle finançait et armait le gouvernement de l'autoritaire Habyarimana dans la Fédération des droits de l'homme et leur l'organisation Africa Watch dénonçait en mars 93 les méthodes sanguinaires. Écoutez d'ailleurs à ce propos la réaction de Ronnie Broman qui vient de quitter ce dimanche la présidence de Médecins Sans Frontières après 12 années de règne.
Moi je suis frappé par le fait qu'on a présenté le conflit du Rwanda et après d'ailleurs celui du Burundi exclusivement sous l'angle d'affrontements interethniques alors qu'il s'agissait de pogroms, de haines ancestrales qui se sont réexprimées alors qu'on ne sait pas de quels ancêtres on parle en l'occurrence. Bref, on a appliqué des formules toutes faites, une espèce de prête à penser, qui est en fait une façon de ne pas penser, sur une situation qui paraissait lointaine, complexe, et à laquelle finalement on n'avait pas envie de s'intéresser, jusqu'à ignorer la propre implication de la France dans le carnage qui se déroule actuellement. Ça, c'est une question qui, à mon avis, est très importante, aussi bien sur le plan humain, que sur le plan éthique, que sur le plan politique.
L'inavouable, c'est le titre du bouquin de Patrick de Saint-Exupéry qui vient de sortir aux éditions Les Arènes. Et Patrick de Saint-Exupéry est journaliste au Figaro, grand reporter, je l'ai dit tout à l'heure en commençant, correspondant actuellement de ce journal à Moscou. Et il raconte dès le début de ce bouquin, qu'il est un jour coincé dans les embouteillages à Moscou, qu'il entend RFI, Radio France Internationale, et qu'il entend ex-ministre des Affaires étrangères qui parle, à qui l'on pose des questions sur le Rwanda et qui dit les génocides du Rwanda. Il a dit les génocides du Rwanda. Et ça, pour Patrick de Saint-Exupéry, qui connaît cette région, qui a fait des reportages, qui a fait de nombreux articles sur cette région, qui est revenu, c'est absolument insupportable, et ça donne le démarrage de son bouquin L'Inavouable, qui s'adresse directement à un certain monsieur qui n'est personne d'autre que Dominique de Villepin, c'est-à-dire notre ex-ministre des Affaires étrangères. Alors, pour ce qui vous concerne, Patrick de Saint-Exupéry, toujours pour le Figaro,
en 94, vous arrivez au Rwanda.
La première fois que je vais au Rwanda à cette période-là, c'est à la mi-mai. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une grande partie des journalistes qui s'occupent de l'Afrique sont monopolisés par les élections en Afrique du Sud, qui sont quand même à l'échelle du continent importantes, puisque c'est alors que Mandela va arriver au pouvoir, va être consacré président sud-africain, donc il y a un vrai renversement. Et on va devoir attendre la fin des élections sud-africaines avant de pouvoir... pour à peu près tous les gens qui étaient présents en Afrique du Sud, partir au Rwanda et couvrir le Rwanda. Et lorsqu'on y va mi-mai 94, on voit ce que c'est réellement. Et c'est au-delà de... Je veux dire, c'est au-delà, quoi. On va passer plusieurs jours avec un groupe de journalistes. Il y avait Nicolas Poincaré, il y avait Michel Perard. Enfin, on rentre là, puis on rentre dans un truc, mais c'est dément, quoi. Je veux dire, en quelques heures, nos habits sont sous couverts de l'odeur de la mort. Je sais pas si vous connaissez l'odeur de la mort, mais il suffit de quelques heures pour qu'on en soit imprégné. On ne respire plus que ça. On se promène dans un pays fantôme, où il y a des morts partout. Parce qu'à l'époque, les morts sont encore visibles. Il y en a partout. Il y a que ça. Des morts et des chiens qui les bouffent. C'est comme ça, ce pays. Et on fait des heures de piste. Et on voit que ça. Il y en a partout. Et là, vous êtes suffoqué. Enfin, vous saviez que c'était terrible. Vous saviez ce que c'était. Vous êtes pas surpris. En même temps, vous êtes surpris parce que ça va même au-delà de ce que vous aviez imaginé dans le pire du pire du pire. Et vous êtes dépassé, quoi. Enfin, vous comprenez pas, alors vous racontez ce que vous voyez, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Vous racontez, vous essayez de comprendre, mais les mots des rescapés dans les premières heures, c'est des mots terribles, quoi. C'est des mots haletants, c'est des mots qu'on peut pas traduire, quoi. Ils vont vous dire des choses, mais ils vous parlent d'un autre monde, quoi. Enfin, vous pouvez pas être dans leur monde comme ça. Plus vous les écoutez, plus vous êtes suffoqué, puis vous continuez à vous promener, puis il y a encore que des morts, puis vous arrivez dans les églises, et puis il y en a partout, puis ça déborde de tous les côtés, et vous êtes halluciné, il va nous arriver un truc très bête. Notre voiture va tomber en panne. Alors on va ouvrir le capot, et puis on va bricoler un peu dedans, et puis on va refermer le capot. Puis au moment où on ferme le capot, on s'aperçoit qu'il y a un énorme sticker qui barre le pare-brise avant. Et sur le sticker, il y a marqué « Nouvelle boucherie rwandaise ». Et on va éclater de rire. Et on va éclater de rire, parce qu'on n'en peut plus, quoi. Enfin, on n'en peut plus, quoi. C'est dingue. On est dans un truc dingue, on est dans un truc qu'on maîtrise pas, on est dans un truc... Où est-ce qu'on est? Et là, c'est la première expérience du génocide. Après, je vais y retourner, plus tard, en juin, et là, ça sera l'occasion de Turquoise.
L'un des temps forts de cette journée aura été la visite par le Premier ministre, M. Balladur, d'un hôpital militaire français de la ville de Siangougou, près de la frontière avec le Zaïre. Reportage sur place de notre envoyé spécial Ghislaine Dupont.
Sous la tente de pédiatrie de l'hôpital militaire installé par les Français dans le stade de Siangougou, Édouard Balladur assiste l'air grave à la perfusion d'un nourrisson complètement déshydraté. Ici, on soigne
23 juin 1994.
Ou par machette. C'est à Siangougou, ville bordée par le lac Kivu en territoire rwandais, que s'est installé le PC du groupement sud de la zone de sécurité française. Le Premier ministre y félicite les hommes de Turquoise pour les actions admirables, écrira-t-il sur le livre d'or qu'ils mènent et qui méritent l'hommage de la France. Après une pause déjeuner très rapide, Édouard Balladur remonte dans le Puma pour survoler à quelques kilomètres de là le camp de Niarouchichi, où sont rassemblés 12 000 réfugiés tutsis protégés par les légionnaires. Un camp qui n'a rien de comparable avec ceux situés au Zaïre, près de Goma, où des centaines de milliers de réfugiés survivent dans des conditions abominables et continuent à mourir du choléra. Initialement prévu, le survol de ces camps, transformé en mouroir, a été annulé, faute de temps. Édouard Balladur termine cette visite de quelques heures par la ville de Kibouye, position la plus au nord du dispositif français, une zone contrôlée aujourd'hui par le détachement sénégalais. À l'occasion de cette dernière étape de sa tournée africaine, le Premier ministre a en tout cas réaffirmé à Goma que l'échéance du 22 août pour les départs des soldats français était maintenue. Quelques centaines d'hommes pourraient toutefois rester au Zaïre pour assurer la logistique humanitaire. Ghislaine Dupont, Goma, RFI.
Opération turquoise. Et c'est là que votre bouquin, que vous faites commencer votre bouquin. Et là, pour vous, c'est un traumatisme. Vous commencez vraiment à vous poser des questions. Vous commencez à réaliser, comme on dit, à réaliser.
Oui, pour moi, mais pour moi et aussi pour beaucoup de militaires. C'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Turquoise est un traumatisme pour tous ceux qui ont été à Turquoise, pour tous ceux qui ont vu Turquoise, pas tous, mais pour une bonne partie. Pour les journalistes, pour un certain nombre de soldats et pour un certain nombre d'humanitaires. Tous ces gens-là portent un traumatisme turquoise. Parce qu'il s'est passé un truc à Turquoise. Le problème qui se pose à Turquoise, c'est que On rentre faire de l'humanitaire. Officiellement, c'est une intervention humanitaire. Bon, lorsqu'on prend la composition des troupes de turquoise, on n'a que des troupes spéciales, pour ainsi dire. On a le fer de lance de l'armée française, on a la 11e DP, on a des régiments para. Ils sont lourdement armés, mais vous n'imaginez pas à quel degré d'armement ils sont. Moi, je vois des armes que j'avais jamais vues. Enfin, je découvre plein de choses. On a ce qu'on appelle une unité COS, qu'on vient de mettre sur pied 2 ans auparavant, commandement des opérations spéciales. On est vraiment loin de l'humanitaire. Je veux dire, vous prenez les choses telles qu'elles sont. On a des avions de chasse, on a des hélicoptères d'attaque, on a du mortier lourd, et on vient de faire de l'humanitaire, ce qui est quand même assez problématique. On dégage des moyens absolument fantastiques. Enfin, c'est quand même 2500 hommes avec l'armement qui a été amené sur place. C'est très très lourd. Enfin, moi j'ai très rarement vu ça. Donc, on vient faire de l'humanitaire. Mais bon, il n'y a rien d'humanitaire quand on amène. Il n'y a rien d'humanitaire. On vient faire de l'interposition. Mais d'interposition, pourquoi? Entre qui et qui? Sur quelle base? Je vais accompagner un petit groupe de soldats. Simplement, on va tomber, puis on va sympathiser, puis on va se promener ensemble. Et en se promenant ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je m'apercevrai que les soldats comprennent que ce qu'ils voient, ça correspond pas du tout à ce à quoi on les avait préparés. Ils s'aperçoivent qu'ils sont acclamés par les tueurs, que les responsables du génocide sont là avec des drapeaux français en train de crier « Vive la France! Bravo la France! Vive François Mitterrand !» Au début, quand ils arrivent, ils sont ravis. Sauf que plus les jours vont passer, plus ils vont se rendre compte de qui les applaudit. Et là, il y en a quelques-uns qui vont ne pas supporter. Et moi, avec ce groupe de soldats, je les entendrai me dire, mais j'en ai marre de me faire acclamer par ces assassins. Les types ont pigé. Il aura fallu quelques jours, et ils ont pigé. Ils vont piger. Et c'est pour ça que je vous dis que le traumatisme, c'est les militaires, c'est les journalistes, c'est les humanitaires, où la musique de turquoise va bizarrement sonner totalement faux, quoi. Malsain. Ça va sonner à côté.
Les Français étaient là au moment où le génocide a eu lieu. Ils ont entraîné les génocidaires. Ils étaient à des
interview de Paul Kagame, président du Rwanda, en réponse aux accusations dont il fait l'objet tout récemment, autour évidemment de la grande question de savoir qui a déclenché ce génocide, qui a tiré sur l'avion du président du Rwanda ou dans cet attentat, c'est dans cet attentat qu'il a trouvé la mort, mais c'est surtout cet attentat qui a déclenché ce génocide. C'est un grand sujet qui agite évidemment depuis dix ans les conversations, les polémiques. On ne sait toujours pas dix ans après, même si ça n'a rien à voir, ou qu'il y a un rapport très indirect avec le génocide. Ça nous a semblé intéressant d'avoir sur cette question le point de vue de Patrick de Saint-Exupéry. François-Xavier Verschave, avec ce 10e anniversaire, on va ressurgir une question, celle du déclenchement de ce génocide du Rwanda. Or, ce déclenchement, c'était le 6 avril, l'attentat contre l'avion du président du Rwanda. Et aussitôt, dans les heures qui viennent, la mécanique se met en route. Or, on ne sait toujours pas, 10 ans après, quels sont les auteurs de cet attentat? Alors récemment, on a vu ressurgir l'une des thèses, qui n'est pas neuve du tout, celle de la responsabilité du FPR et de l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame.
Première observation. Enfin,
qui est plus qu'une thèse, puisqu'il y a un dossier qui avance, le juge Bruguière, enfin, on connaît l'histoire.
Première observation, les deux thèses principales, celle d'une responsabilité des extrémistes hutus autour du colonel Bagosora, et celles du FPR sont présentes dès juin-juillet 94. La première est avancée par Stephen Smith en juillet 94 dans Libération, et l'autre en juin 94 par Colette Brackman du journal Le Soir en Belgique. Donc ces thèses-là existent depuis 10 ans. Première question, alors qu'il est absolument certain que les services de renseignement français, américains, probablement belges, et probablement aussi du FPR, connaissent la vérité, pourquoi cette vérité n'a-t-elle pas émergé depuis 10 ans? Si ce n'est parce que un certain nombre de ces services se tiennent par la barbichette et se font chanter mutuellement. Donc 10 ans après, on nous ressort les mêmes thèses comme une nouveauté. C'est vrai que c'est une question très importante, mais la question la plus importante aujourd'hui, 10 ans après le génocide, c'est de savoir qui l'a organisé, qui l'a conçu et qui l'a exécuté.
Là-dessus, on n'a pas de doute.
Donc, la question de qui a abattu l'avion, je vous dis carrément, moi je n'en sais rien. Mais ce qui est clair, le déclenchement du génocide a lieu dès la nuit du 6 au 7. Dès la nuit du 6 au 7, le colonel Bagosora donne des ordres. Dès la nuit, et surtout dans la journée du 7, il y a des premières exécutions atroces à Kigali et très vite dans tout le Rwanda. Donc, les ordres qui sont donnés sont tout à fait clairs. Et la France, qui est proche de ceux qui donnent les ordres, ne fait rien apparemment, et ensuite va leur fournir des armes et les aider à continuer leur action. Donc, voilà ce que nous savons aujourd'hui.
Merci à François-Xavier Verschave. Son bouquin « Au mépris des peuples » vient de sortir à la Fabrique. Je rappelle aussi le livre de Patrick de Saint-Exupéry, « L'inavouable, la France au Rwanda » aux éditions des Arènes. Merci à tous. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent, Philippe Duclos. Montage Guy Vangtil, assistant Koyen Guyen et Christophe Imbert. C'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Il est 18h sur Inter.